Ramuncho, première partie, chapitre 6. Il s'agit d'une grande partie de paume pour dimanche prochain, à l'occasion de Saint-Damas, au bourg d'Asparitz. À Rochecoy et Ramuncho, compagnons de continuelle course à travers le pays d'alentour, cheminent le jour entier, dans la petite voiture des Detchari, pour organiser cette partie-là, qui représente à leurs yeux un événement considérable. D'abord, ils ont été consulter Marcos, l'un des Iragola. Au coin d'un bois, devant la porte de sa maison verdie, à l'ombre, ils l'ont trouvé assis sur une souche de châtaignier, toujours grave et sculpturale, les yeux inspirés, le geste noble, en train de faire manger la soupe à un tout petit frère encore dans ses maillots. « C'est le petit 11e, celui-là » ont-ils demandé en riant. « Ah ouais !» répondit le grand aîné. Il court déjà comme un lapin dans la bruyère. Le 11e de nous. C'est le numéro 12, celui-là. Vous savez bien, le petit Jean-Baptiste, le petit nouveau qui, je le pense, ne sera pas le dernier. » Et puis, baissant la tête pour ne pas se heurter aux branches, ils ont traversé les bois, les futaies de chênes sous lesquels s'étend, à l'infini, la dentelle rousse des fougères. Et ils ont traversé plusieurs villages aussi, villages basques, groupés tout autour de ces deux choses qui en sont le cœur et qui en symbolisent la vie, l'église et les jeux de paume. Ça et là, ils ont frappé à des portes des maisons isolées, maisons hautes et grandes, soigneusement blanchies à la chaux, avec des hauts vents verts et des balcons de bois où sèchent au dernier soleil des chapelets de piments rouges. Longuement, ils ont parlementé, en leur langage si fermé aux étrangers de France, avec les joueurs fameux, les champions attitrés, ceux dont on a vu les noms bizarres sur tous les journaux du Sud-Ouest, sur toutes les affiches de Biarritz ou de Saint-Jean-de-Luz, et qui, dans la vie ordinaire, sont de braves aubergistes de campagne, des forgerons, des contrebandiers, la veste jetée à l'épaule et les manches de chemise retroussées sur des bras de bronze. Maintenant que tout est réglé et les paroles fermes échangées, il est trop tard pour rentrer cette nuit chez eux, à Etchezard. Alors, suivant leurs habitudes d'errants, ils choisissent pour y dormir un village à leur guise, Zitsari par exemple, qu'ils ont déjà beaucoup fréquenté pour leurs affaires de contrebande. À la tombée du jour, donc, ils tournent bride vers ce lieu, qui est proche et confine à l'Espagne. C'est toujours par les mêmes petites routes pyrénéennes, ombreuses et solitaires sous des vieux chênes qui s'effeuillent, entre des talus richement feutrés de mousse et de fougères rouillées. Et c'est tantôt dans les ravins où bruissent les torrents, tantôt sur les hauteurs d'où apparaissent de tous côtés les grandes cimes assombries. D'abord, il faisait froid, un vrai froid, cinglant le visage et la poitrine. Mais voici que des bouffées commencent à passer, étonnamment chaudes et embaumées de senteurs de plantes. Le vent du sud, presque africain, qui se lève encore une fois, ramenant tout à coup l'illusion de l'été. Et alors, cela devient pour eux une sensation délicieuse, de fendre l'air si brusquement changé, d'aller vite sous les souffles tièdes, au bruit des grelots de leur cheval qui galopent follement dans les montées, flairant le gîte du soir. Zitsari, un village de contrebandiers, un village perdu qui frôle la frontière. Une auberge délabrée, de mauvais aspect, où, suivant la coutume, les logis pour les hommes se trouvent directement au-dessus des étables, des écuries noires. Ils sont là, des voyageurs très connus, à Rochecoa et Ramuncho, et tandis qu'on allume le feu pour eux, ils s'asseyent près d'une antique fenêtre à meneaux, qui a vu sur la place du jeu de paume et de l'église. Ils regardent finir la tranquille petite vie de la journée dans ce lieu si séparé du monde. Sur cette place solennelle, les enfants s'exercent au jeu national. Graves et ardents, déjà forts, ils lancent leurs pelotes contre le mur, tandis que d'une voix chantante et avec l'intonation qu'il faut, l'un d'eux compte et annonce les points en la mystérieuse langue des ancêtres. Alentour, les hautes maisons, vieilles et blanches, aux murs déjetés, aux chevrons débordants, contemplent par leurs fenêtres vertes ou rouges ces petits joueurs si lestes qui courent au crépuscule comme les jeunes chats. Et les chariots à bœufs rentrent des champs, avec des bruits de sonnailles, ramenant des charges de bois, des charges d'ajoncs coupés ou de fougères mortes. Le soir tombe, tombe avec sa paix et son froid triste. Puis, l'Angélus sonne, et c'est dans tout le village un tranquille recueillement de prières. Alors Ramuncho, silencieux, s'inquiète de sa destinée, se sent comme prisonnier ici, avec toujours ses mêmes aspirations, vérant de ses quoi d'inconnu, qui le trouble à l'approche des nuits. Et son cœur aussi se serre de ce qu'il est seul et sans appui au monde, de ce que Gracieuse est d'une condition différente de la sienne, et ne lui sera peut-être jamais donnée. Mais voici qu'Arochecoa, très fraternel cette fois, dans un de ses bons moments, lui frappe sur l'épaule comme s'il avait compris sa rêverie, et lui dit d'un ton de gaieté légère: Eh bien, il paraît que vous avez causé ensemble hier au soir, la sœur et toi. C'est elle qui me l'a appris, et que vous êtes joliment d'accord tous deux. Ramuncho lève vers lui un long regard d'interrogation anxieuse et grave, qui contraste avec ce début de leur causerie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Demande-t-il, de ce que nous avons dit tous deux. Oh, moi, mon ami, répond Arochecoa, devenu plus sérieux lui aussi. Moi, parole d'honneur, ça me va très bien. Même comme je prévois que ce sera dur avec la mère, si vous avez besoin d'un coup de main, je suis prêt à vous le donner. Voilà. Et la tristesse de Raymond est dissipée comme un peu de poussière sur laquelle on a soufflé. Il trouve le souper délicieux, l'auberge gaie. Il se sent bien plus le fiancé de Gracieuse à présent que quelqu'un est dans la confidence, et quelqu'un de la famille qui ne le repousse pas. Il avait cru pressentir qu'Arochecoa ne lui serait pas hostile. Mais ce concours, si nettement offert, dépasse de beaucoup ses espoirs. Pauvre petit abandonné, si conscient de l'humilité de sa situation, que l'appui d'un autre enfant, un peu mieux établi dans la vie, suffit à lui rendre courage et confiance.